Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à la suite de notre série de messages « Suivre Jésus » et la deuxième partie d'un message intitulé « Suivre Jésus de la multiplication à la tempête, de la tempête au miraculeux ». Bienvenue à vous ici à Nouvelle-Vie à Longueuil et bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet, à ceux qui suivent sur les différentes plateformes, sur les médias sociaux, bien sûr sur Facebook Live en ce moment, sur notre page Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube. Je suis béni ce matin, mais je veux l'offrir, un témoignage que je veux offrir à tous ceux qui travaillent à la technique, ceux qui sont aux caméras, ceux qui sont à la régie, ceux qui travaillent sur nos sites, notre équipe de com. Nous recevons à chaque semaine plein de courriels. Cette semaine, j'ai reçu plusieurs courriels de centres, par exemple, de centres de thérapie comme Défi Jeunesse. Je veux saluer les gars de Défi Jeunesse qui, à chaque semaine, suivent les messages pris, étudient les messages ensemble. Un autre centre que je ne nommerai pas, mais qui a commencé à venir en personne avec les gars et par la suite, maintenant, suivre avec les vidéos et même, on nous a écrit cette semaine pour leur donner la permission. Ils ont des portes ouvertes dans les écoles et ils veulent aller dans les écoles avec un des vidéos témoignages un dimanche matin ici de Nouvelle-Vie. Et cette semaine, j'ai reçu un courriel d'un animateur pastoral catholique, mais aussi d'un aumônier que j'aimerais vous lire ce matin. Je veux l'offrir à tous ceux qui servent dans l'équipe de communication. L'aide d'un aumônier avec une invitation assez extraordinaire. Moi, j'en reçois plusieurs invitations, mais celle-là, elle est très spéciale. Cher Pasteur Claude, je veux vous remercier pour votre série de messages « Suivre Jésus » qui fait pas mal de vagues dans nos milieux. Comme vous le savez, nous sommes maintenant plusieurs aumôniers à utiliser avec votre permission les vidéos de vos messages dans nos rencontres de groupe avec les hommes et les femmes qui sont détenus dans nos établissements carcéraux. Je vous ai écrit à quelques reprises pour vous faire part d'à quel point votre ministère et vos homélies, je fais des homélies les dimanches matins, ont un grand impact. C'est émouvant de voir à chaud, en direct, ces hommes et ces femmes complètement irreligieux être bouleversés, souvent jusqu'aux larmes, en vous écoutant. Nous voyons des progrès et cheminements d'introspection, de prise de conscience, de responsabilisation et même de processus de réparation suite à nos discussions et partages centrés sur l'Évangile de Christ tel que vous le présentez. C'est assez fascinant et édifiant. Eh bien, suite à la démarche de quelques-uns d'entre nous, nos supérieurs ont accepté de présenter vos vidéos lors d'un colloque rassemblant plus de 200 aumôniers, prêtres et agents pastoraux afin de proposer d'utiliser vos messages dans nos institutions, églises, je ne sais pas comment ils vont faire ça, institutions, églises, centres correctionnels, CHSLD et hôpitaux partout sur notre territoire. L'archevêché a accepté notre requête de vous contacter afin de voir s'il serait possible pour vous d'être notre conférencier invité pour l'adresse principale de ce colloque. Avec soit une présentation de 90 minutes sur le thème « Communiquer l'Évangile de façon contemporaine et efficace à notre société et culture d'aujourd'hui ». Nous serions honorés de votre présence, puisse Dieu notre Père vous utiliser pour nous apprendre à suivre Jésus nous-mêmes. D'abord, il écrit « Nous en avons tellement besoin » pour ensuite présenter le Christ à cette génération. Merci Pasteur Claude, merci Nouvelle-Vie d'être là pour le message et le modèle de comment suivre Jésus. On va applaudir. Le message de l'Évangile. Merci à toute l'équipe technique. Nous vivons des jours excitants où nous suivons Jésus ensemble et dans une séquence en ce moment, ce message « Comment suivre Jésus » de la multiplication, les saisons où les choses vont bien, où sont bénédictions avec un élan dans nos vies, dans une tempête et comment sortir de la tempête et aller sur le chemin du miraculeux. Avons pris comme texte de départ dans Marc chapitre 6 le récit de la multiplication suivi de la tempête et du miraculeux. Et souvent, c'est les deux premiers, le message de la multiplication et par la suite le message de la tempête sont enseignés, crus et suivis, compris, appliqués séparément. Mais Jésus les a réunis, un enseignement qui réunit les deux. Parce qu'à la fin de la tempête, lorsqu'il marche sur les eaux vers eux, après la multiplication qui a été suivie par une tempête, nous lisons dans Marc 6, versets 51-52. « Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits. Et rempli d'étonnement, car il n'avait pas compris le miracle des pains et de la multiplication, le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Il y a une dynamique séquentielle spirituelle de la multiplication à la tempête. Et on regarde ensemble à trois principes dynamiques et découvertes des apprentissages de vie qui sont tellement importants. Parce que c'est seulement alors que vous savez comment traverser de la multiplication à la tempête que vous n'allez pas vous faire voler le miraculeux. On ne veut pas se faire voler le miraculeux. On ne veut pas sécher et s'enfoncer dans la tempête. Alors, nous regardons ensemble. Et si vous avez manqué le premier message, il est déjà en ligne. C'est important que vous allez le chercher. On a regardé tout l'aspect multiplication à la tempête, alors qu'on a vu ensemble que de la multiplication à la tempête au miraculeux, Marc chapitre 6, il faut renouveler nos cœurs et nous approcher. Nous avons vu ensemble qu'il faut recevoir et nous approprier des lois du royaume qu'on a étudiées ensemble la dernière fois et qu'on vit ensemble. Et ce matin, si nous voulons passer de la multiplication à la tempête et entrer nous emparer du miraculeux, il faut reconnaître, accepter et apprendre. Des choses à apprendre pendant ces saisons-là. Et lorsqu'on entre dans la tempête, dans Marc chapitre 6, il y a toute une succession d'événements qui sont tellement, tellement près des tempêtes qu'on vit encore aujourd'hui. La Bible nous dit qu'aussitôt après, il a obligé les disciples à traverser de l'autre côté. Ils étaient dans la volonté de Christ. Ils suivaient Jésus et il y a eu une tempête. Jésus, et Sandra l'a dit mot à mot pendant l'adoration ce matin, Jésus n'a jamais promis l'absence ou la disparition des tempêtes. Il a promis l'accomplissement de nos destinées à travers les tempêtes. Alors, il est de la montagne. Eux étaient sur la mer et lui était à terre, mais la Bible nous dit qu'il les vit. Il les voyait. Ils avaient beaucoup de peine dans la tempête. Le texte nous dit que c'était la quatrième veille de la nuit. Le récit commence à 18 heures. Alors, on est 4 fois 2 heures plus tard. Il est 2 heures du matin. Sans aucun doute que c'était des marins aguerris. Alors, sans aucun doute que pendant les premières heures, on peut les voir se donner des ordres et on va gérer ça. Mais ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes. C'est une tempête qui les amène au bout de leurs ressources. Le Seigneur les voyait. Ses yeux sont toujours, c'est important de le rappeler à chacun d'entre vous ce matin, ses yeux sont toujours sur vous, quel que soit ce que vous traversez. La Bible nous dit qu'il est descendu vers eux sur la mer et il les aurait dépassés. Et ça, c'est extrêmement important parce que Jésus ne s'imposera jamais à vous dans la tempête. Il ne violera jamais votre volonté. Vous pouvez, ce matin, il marche près de vous dans votre tempête. Il marche vers vous sur les flots fracassants de votre tempête. Mais vous pouvez vous fermer, vous pouvez dire non, vous pouvez refuser sa main. Il ne s'imposera jamais. Depuis 35 ans, c'est une des plus grandes souffrances dans le cœur de pasteur de voir des gens laisser passer Jésus pendant leur tempête au lieu de s'emparer à lui. Je veux être avec la femme qui a l'issue du sang, qui a dit, « Ah non, moi, je ne te laisse pas passer. Si je peux seulement le toucher dans ma tempête, je serai guéri. » Ils les auraient dépassés et ils étaient troublés. Et la raison étant, ils ne l'ont pas reconnu parce que leur cœur était endurci, parce qu'ils n'avaient pas compris. Dans les tempêtes, il faut reconnaître, il faut accepter et il faut apprendre. Parce que de l'autre côté, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est seulement si j'accepte de demander au Seigneur de m'aider à apprendre. C'est tellement important de comprendre ce qui m'empêche et ce qui va me permettre de traverser de l'autre côté. Alors, la première question du message ce matin, c'est est-ce que vous apprenez des choses pendant vos tempêtes? Est-ce que vous perpétuez le même cycle toujours, ad vitam aeternam, de faire les mêmes erreurs, les mêmes patterns, les mêmes actions, les mêmes endurcissements, les mêmes affaires pour vous replonger dans les mêmes tempêtes? Est-ce que vous passez vos années à vivre les mêmes tempêtes sans jamais vous poser de questions? Il y a des questions tellement importantes. Il faut apprendre. La raison pour laquelle ils ne reconnaissaient pas dans leur tempête, c'est parce que leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas laissé Dieu les enseigner pendant leur tempête. Les tempêtes sont certains des moments les plus extraordinaires pour grandir, pour apprendre. C.S. Lewis a dit que la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. C'est le moment où Dieu veut le plus nous parler. Des questions importantes pendant les tempêtes. Est-ce que je projette toujours tout sur les autres pendant mes tempêtes? Est-ce que c'est toujours c'est lui, c'est elle, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est l'église, c'est le patron, c'est la société, c'est le monde, c'est ma famille? Ou est-ce que je prends ma part? Est-ce que je me pose la question, qu'est-ce que je peux apprendre sur Dieu? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi pendant cette tempête? Qu'est-ce qui m'appartient? Quelle est ma part dans ce qui a pris place? Qu'est-ce que je peux changer afin de mieux suivre Jésus dans la tempête? Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder à des disciples comme nous qui suivent Jésus dans la tempête, parce que le cycle de multiplication, tempête, jusque dans le miraculeux, il est un cycle, une séquence qui se poursuit tout le temps. Je pourrais le faire de la Genèse à l'Apocalypse et de Marc chapitre 6, mais même après la résurrection de Jésus, vous traversez les Actes des apôtres qui couvrent une trentaine, quarantaine d'années de l'histoire des premiers croyants qui suivaient Jésus après la résurrection comme nous, et vous allez voir ce cycle-là. Alors, on va aller ensemble à la fin des Actes des apôtres, Actes 26, 27, 28, où l'apôtre Paul, les Actes se terminent avec une séquence de, il y avait la multiplication dans une tempête, jusque dans le miraculeux. Et je pense que c'est important parce que vous allez voir exactement les mêmes principes, mais très important parce que c'est encore plus proche de nous. Les disciples dans les Actes suivaient Jésus comme nous. Ils savaient que Jésus est le Seigneur, mais il y a des silences. Ils savaient qu'il est immuable, mais il est invisible. Il est ressuscité maintenant comme nous, à travers nos tempêtes. C'est pas comme les disciples qui marchaient dans les évangiles pendant 3 ans avec lui à côté. Comme nous, dans leur tempête, dans les Actes, nous avons ses promesses, mais nous n'avons pas sa présence physique. Nous avons son enseignement, mais il y a parfois des éclipses. Que je vois plus, là. Je vois plus la lumière, je vois plus ce qui se passe. Nous avons ces instructions, mais il y a parfois des injustices incompréhensibles. Lorsqu'on prend ce récit de la dernière tempête des Actes des apôtres qui se termine dans le miraculeux, après la multiplication des actes, on le prend dans l'acte 26, et nous avons l'apôtre Paul qui est mis en prison pour absolument, il a absolument rien fait. Il n'a aucun tort, il a seulement prêché l'Évangile, puis il va être mis en prison, puis il va être mis sur un bateau pour être amené comme un prisonnier, et le texte nous dit dans Actes 26, 31, la diapo 5, « Le roi même, le gouverneur Béniris et tous ceux qui étaient assis avec lui se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » C'est ces tempêtes dans nos vies, il y a des tempêtes dans nos vies où nous n'avons rien fait pour que ça nous arrive. C'est « j'ai rien fait et je me retrouve dans une tempête eh, où les vents sont contraires, où les vents viennent contre moi. » Et le verset 7 de Actes 27 nous dit « Nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté. Nous avons atteint une certaine hauteur, mais le vent ne nous permit pas de... » Et ça aussi, c'est commun à nos vies d'aujourd'hui. J'ai travaillé fort. Mon mariage, ma vie, ma carrière, ma famille, mes enfants, mon ministère. On avançait lentement, non sans difficulté. Bon, c'est comme au moment où on pensait qu'on était arrivé. On est arrivé à une certaine hauteur. Mais tout à coup, il y a des vents qui ne nous permettent pas d'en faire face. Un combat, il y a des gens qui sont là-dedans en plein ce matin. C'est un temps assez long. Le texte nous dit au verset 9 de Acte 27, un temps assez long s'était écoulé. Ça, c'est les moments d'impatience dans nos tempêtes. Ça fait trop longtemps que je suis là-dedans. Comment ça se fait que je suis encore là-dedans? Ça devrait être fini à ce moment-ci. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation était, verset 9, dangereuse. L'apôtre Paul suit le Seigneur Jésus passionnément, radicalement, de tout son cœur. Il avait connu des saisons de multiplication extraordinaire dans des tempêtes, sortant de la tempête avec encore plus de multiplication. Mais là, il se retrouve dans une tempête qui est dangereuse. Je veux dire à des chrétiens même qui sont là de longue date, il y a des tempêtes qui sont... Nos tempêtes peuvent nous développer. Ils peuvent nous définir, ils peuvent nous permettre de devenir des hommes et des femmes qui découvrent nos destinées, mais nos tempêtes peuvent aussi nous diminuer et les tempêtes peuvent être dangereuses pour votre âme. Peut être dangereuse pour votre marche avec Dieu, pour votre mariage, pour votre vie, vos engagements. Je dirais de cette façon, j'espère que cette phrase-là va rester pour vous. Le dénouement de vos tempêtes, le dénouement ou le développement dépend de mes décisions. Qu'est-ce que je vais décider dans ma tempête va déterminer le dénouement de ma tempête. Est-ce que ça va être une tempête de destinée ou une tempête dangereuse? Et l'apôtre Paul est dans un endroit où c'est une tempête et elle est dangereuse pour lui et pour les gens autour de lui. Et il cherche à avertir, et ça aussi, ça nous arrive. Il va avertir les gens, il essaie d'avertir ceux qui étaient près de lui. Et chez plusieurs d'entre nous vivons ces moments où il y a une tempête qui est dans la vie de quelqu'un qu'on aime, puis on essaie de les avertir. Combien d'entre vous avez déjà essayé d'avertir quelqu'un que vous aimez que le bateau dans lequel il s'embarque est dangereux? C'est ce que l'apôtre Paul a fait ici. Le texte nous dit, on poursuit dans notre texte. Le texte dit, c'est toujours au chapitre 27, versets 10 et 11. C'est pourquoi Paul avertit les autres, leur dit, « Oh, homme, je vois que cette navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. » C'est des tempêtes terribles dans nos vies, de frustration et d'impuissance, lorsque les personnes qu'on aime refusent de nous écouter et s'en vont dans la tempête qui nous affecte aussi. Nos parents, nos enfants, nos amis, des frères, des gens de l'Église qu'on essaie d'aider. Et attention, il y a des vents qui semblent légers dans nos vies, qu'on a pris à la légère, mais qui peuvent se transformer, pour celui qui n'a pas le cœur alerte, en tempête terrible. Un léger vent, le verset 13 à 15, un léger vent du sud vient souffler et se croyant, ça me fait rire, et se croyant maître de leur dessein. Je vais vous dire à quelqu'un près de vous, t'es pas maître de grand chose. Je vais vous dire à quelqu'un. Dites à quelqu'un près de vous, t'es pas maître de tout. Plus, comme d'entre vous, à mesure que vous avancez dans la vie, tu réalises que tu penses que tu tiens bien les affaires. Il n'y a pas grand-chose qui tient dans mes mains, mais j'ai l'assurance que tout demeure dans ses mains à lui, par exemple. Croyant tenir leur dessein dans leurs mains, très drôle. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent des îles près de Crète, mais bientôt, c'est justement léger, puis c'est devenu un nœud rachillon, qui était une tempête de fou qui se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Alors la question est, avez-vous sous-estimé certains vents légers qui ont commencé dans votre vie, des vents de négligence, des vents de mensonge, des vents d'immoralité, des vents d'amertume, des vents d'incrédulité? Êtes-vous en ce moment, dans un moment à cause d'une tempête, où vous êtes en train de vous laisser aller à une certaine dérive? Une dérive dans votre foi, une dérive dans vos convictions, une dérive dans votre témoignage, une dérive dans vos paroles, une dérive dans vos pensées, une dérive dans votre engagement envers Dieu. Avez-vous déjà vécu une tempête où vous avez le sentiment que vous avez complètement perdu le contrôle? Je ne contrôle plus rien. C'était ce type de tempête dans lequel ils étaient. Acte 27, 16, 17, nous passâmes en dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre même maîtres de la chaloupe. Avez-vous déjà été dans ces moments, ça représente les tempêtes, ces tempêtes de nos vies où je ne suis même plus maître de ce qui pourtant me semblait tellement en dessous de mes aspirations, mes standards. On a déjà perdu le navire, il reste juste la chaloupe, puis on n'est même pas capable de maîtriser la chaloupe. Nous sommes dans une saison où j'ai plus aucun contrôle. Il l'a dit de cette façon, c'est quasiment comme la fin d'une tragédie. Car, et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme si c'est tout est terminé, tout est fini. Mais dans ce moment-là, on va regarder ensemble ce matin, la parole de Dieu nous dit, ils n'avaient pas compris. Ils avaient le cœur endurci, ils ne l'ont pas reconnu dans les tempêtes parce qu'ils n'avaient pas compris. Il faut apprendre, il faut connaître, il faut apprendre, reconnaître, accepter et apprendre certains principes que donc, lorsque tout semble terminé, lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble, c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Alors qu'ils se croyaient complètement perdus et hors de contrôle, la main de Dieu était encore à l'œuvre. Et voici, de la tempête au miraculeux, il faut reconnaître, accepter et apprendre, la première pensée, que la révélation est plus importante que les raisons. On va lire ensemble notre texte qui apparaît à l'écran, Acte 27 et le verset 18. « Comme nous étions violemment battus par la tempête, comme les disciples dans Marc 6, et on jeta à la mer la cargaison. Mais le troisième jour, nous y lançâmes nos propres mains, les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte qu'on a même perdu enfin toute espérance d'être sauvé. On ne peut pas sortir de celle-là. Mon mariage ne peut pas être sauvé. Mes enfants ne peuvent pas revenir. Je ne peux pas me relever de cet échec. Je ne peux pas me sortir de cette peine. On n'avait pas mangé depuis longtemps comme les disciples qui n'avaient même pas eu le temps de se nourrir dans leur tempête. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, dit, « Ô homme, il fallait m'écouter de ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril, ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura seulement de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, un messager du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses, il faut que tu ailles à Rome, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il m'a été dit. » Mais nous devons échouer sur une île. la révélation est plus importante que les raisons. Violemment battus par la tempête, on jeta la cargaison à la mer. Et une des bonnes choses des tempêtes, c'est que souvent, c'est dans les tempêtes qu'on se met à acheter des choses inutiles. Il faut que tu relâches certaines affaires. Dis à la personne à côté de vous, tu as trop de bagages. Dis ça à la personne, tu as trop de bagages. Tu as trop de bagages. Bagages de souvenirs, bagages de regrets, bagages de remords, bagages d'attente, bagages d'échéancier. Je pensais que. Laisse aller la cargaison. Il faut traverser la tempête. Et violemment, il n'y avait pas de lumière pendant plusieurs jours. On a vécu ça. On n'avait pas mangé depuis longtemps. On a vécu ça. Paul, et ça me fait sourire parce que j'aime tellement l'humanité de ceux qui suivent Jésus dans les actes. Paul était très humain parce qu'il n'a pas été capable de s'empêcher de dire « Vous auriez dû m'écouter ». Il n'est pas capable de dire, de s'empêcher de dire, je vous l'avais dit, vous auriez dû m'écouter, mais merci Seigneur, parce que tant qu'on est dans une tempête, on n'aime pas tellement, ça fait pas trop de bien d'avoir le frère ou la sœur, tu aurais dû m'écouter. D'avoir les parents, tu aurais dû m'écouter. D'avoir les gens autour de moi, tu aurais dû m'écouter. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il ne dit pas seulement, tu aurais dû, vous auriez dû m'écouter, mais il dit, courage, courage, le Dieu à qui j'appartiens m'a fait une promesse. Il fallait que, dites avec moi à voix haute, il fallait que. Il fallait que, mais j'ai une promesse et j'ai confiance qu'il va m'être faite selon la promesse. Je m'en vais à Rome, j'ai un appel, et il fallait que, mais Dieu, j'ai une promesse. En d'autres mots, l'apôtre Paul dit, vous êtes dans le trouble, mais parce que je suis là, parce que je suis à bord, il y a une main de Dieu qui conduit les choses. Dites à la personne près de vous, t'es chanceux que je sois assis à côté de toi. Dites à la personne. Il y a plusieurs années, j'étais à l'aéroport en route pour prendre un avion pour l'Ouest canadien. Puis un jeune homme, un jeune chrétien, un cinéaste chrétien qu'on aime ici, qu'on connaît bien, Guillaume, est arrivé. J'étais là dans mes pensées. « Hey, allô, Pasteur Claude! Aïe, on est sur le même avion, Vancouver, c'est malade! » Et tout ça. « Ah oui, c'est le fun, Guillaume! » Et finalement, on entre dans l'avion. Puis moi, j'étais assez plus en avant que lui, il était assez en arrière. Et c'est le jour, la semaine vers Vancouver. Fait que c'est super, c'est beaucoup du monde, des gens d'affaires. Puis tout ça, moi, je me sens en avant tranquille. D'un coup, une voix en arrière, Guillaume écrit dans l'avion. Un instant, mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Il n'y a aucun problème, aucun danger dans cet avion. Il y a un homme de Dieu dans cet avion. Cet avion ne peut pas tomber parce que l'autre est dedans. Le reste du voyage, tous les gars dans... L'apôtre Paul dit, la révélation que ce que Dieu a promis, qu'il fallait que le Dieu fidèle a, que le Dieu à qui j'appartiens a encore un plan, est plus important que les raisons. Moi, j'aime savoir, nous aimons savoir les raisons. Une des choses les plus difficiles pour nous, c'est lorsqu'on traverse des tempêtes, il faut blâmer quelqu'un, il faut trouver une raison. C'est quoi la raison? C'est qui? Les raisons. L'apôtre Paul, c'est difficile parfois. Moi, je me sens toujours plus fort, je me sens toujours plus apte dans mes tempêtes si je pense que je comprends la raison. C'est lorsque tu ne sais pas la raison. Et on voit pour l'apôtre Paul que Paul, il y a cet échange, cette dualité. Il a de la foi. Il faut qu'il en sera fait comme, mais il y a aussi la frustration. Vous auriez dû m'écouter. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a un moment dans nos vies chrétiennes où on a besoin de s'arrêter, de dire, Seigneur, la révélation est plus importante. Dans nos tempêtes, nous avons plus besoin de la révélation de Dieu, que le Seigneur à qui j'appartiens a sa main sur moi et que je m'en vais, je dois comparaître devant, je m'en vais à Rome et rien ne va m'en empêcher, je vais m'échouer sur cette île de Crète, mais Dieu a un plan pour moi. Il y a des moments où j'aurais le goût de vous dire de cette façon la plus simple possible, j'en suis arrivé dans ma foi, dans la vie chrétienne, je suis arrivé à ma foi que je sais que même les erreurs des autres, même les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs des autres, Dieu est capable de les utiliser pour sa volonté dans ma vie. Je ne veux pas m'enliser et mourir dans essayer de trouver les raisons. Lâche la cargaison du pourquoi. Lâche la cargaison du pourquoi et reviens ce matin à la révélation de « Il m'a dit qu'il est fidèle, il ne m'abandonnera pas. Le Dieu à qui j'appartiens va mettre sa main sur moi et si je me retrouve sur l'île de Crète, il va faire une œuvre dans ma vie. » Quelqu'un devrait dire oui. Je suis arrivé à cette place dans ma vie. Si nous restons prisonniers de la raison, nous allons manquer des raisons du pourquoi. Nous allons manquer la révélation. J'ai cette confiance dans ce Dieu à qui j'appartiens. Je vais même aller un pas plus loin. Non seulement ce que Dieu peut utiliser, même mes erreurs, les erreurs des autres et toutes nos imperfections pour accomplir ses plans. Je le dirais de cette façon, qu'il y a bien des fois où Dieu permet des situations afin de se révéler encore plus. C'est difficile pour nous parfois de lire les textes, mais vous vous souvenez du moment où Jésus arrive et Lazare, notre frère Lazare, ton ami Lazare, est malade et continue son chemin et finalement lui annonce Lazare est mort et il dit je me réjouis que ça prenne place parce que je vais vous révéler. Il l'avait connu comme seulement le Jésus de la guérison. Maintenant, vous allez le connaître comme le Jésus de la résurrection. En d'autres mots, il y a certaines calamités, certaines tempêtes qui deviennent les opportunités de Dieu pour se révéler encore plus dans toute sa gloire. Dans ma vie, je n'ai pas besoin de plus de raisons et de pourquoi. J'ai besoin de renouveler la révélation qu'il a sa main sur ma vie et me dirige. Et on va passer à travers ensemble. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et voici ce qu'il faut. Il faut reconnaître, accepter et apprendre que la révélation est plus importante que les raisons et que Malte, l'île de Malte, peut devenir le lieu du miraculeux. Chapitre Acte 28, 1. Alors, après nous être sauvés, on t'a sauvés, il y a un naufrage sur l'île de Malte. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait froid. Se retrouve sur l'île de Malte. La deuxième chose qu'il faut reconnaître, accepter et apprendre, c'est que l'île de Malte peut devenir le lieu du miraculeux. Récapitulez un petit peu, là. L'apôtre Paul est un innocent, il n'a rien fait de mal, il a juste prêché l'Évangile, il est mis en prison injustement, accusé injustement, mis sur le bateau injustement. Il est là à cause de la stupidité de ceux qui ont refusé d'écouter. Non, on n'y va pas, ça va être dangereux. Non, on va écouter le capitaine au lieu de toi. Il se retrouve sur l'île de Malte, dans cet endroit de misère. Et Malte, ça représente l'inconnu. Ça représente. La Bible nous dit la raison pour laquelle ils appelaient les barbares, c'est qu'ils parlaient un langage qu'ils ne comprenaient pas. Malte, c'est les endroits dans nos vies qui sont maintenant inconnus. C'est les saisons de nos vies où je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis pas capable d'interpréter les événements qu'il y a autour de moi. Il pleut, il fait froid, on est sur l'île, ils viennent de survivre. Je suis le grand apôtre Paul. J'ai une vision, je m'en vais à Rome prêcher dans les Colisées devant César. Qu'est-ce que je fais sur la minuscule Malte? Qu'est-ce que je fais sur cette île primitive? Malte, c'est ces endroits dans ta vie que tu dis, c'est l'inconnu qui me fait peur. Je pensais pas que ceci m'arriverait. Je pensais jamais me retrouver ici, dans mes relations, dans ma vie. Je pensais jamais être encore à ce point-là. Je pensais jamais. C'est pas du tout ce que je m'attendais. C'est l'inconnu. Nous avons besoin non seulement de relâcher les raisons pourquoi est-ce que, et nous emparer de la révélation. Nous avons besoin de croire ensemble ce matin que Malte peut devenir le lieu du miraculeux, que Dieu prend les Maltes et les utilise dans nos vies pour le miraculeux. Avez-vous déjà été en route vers Rome, puis vous vous êtes retrouvé à Malte? En route vers Rome, ça va être ça dans ma carrière, ça va être ça dans mon travail, ça va être ça dans mon mariage, ça va être ça avec mes enfants, ça va être ça dans ma vie, ça va être ça dans mon ministère, ça va être Rome, je me retrouve à Malte. Il pleut, il fait froid, on gèle, je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Tu as besoin, dans les tempêtes, si tu veux aller vers le miraculeux, je peux croire, et ceux d'entre nous qui marchons avec Dieu depuis longtemps pouvons vous le témoigner. Nous avons vu tellement de fois Malte devenir le lieu du miraculeux, l'endroit où je ne voudrais pas être, l'endroit que je ne connais pas, l'endroit où je suis insécurisé, l'endroit où il n'y a plus rien qui est familier, l'endroit dans ma vie où est-ce que tous mes repères et puis tout ce que je savais faire, tous les langages que j'avais ne correspondent pas. Il n'y a plus rien d'autre que Dieu. Dieu dit à Malte, je veux que le survivant devienne, je vais le rendre encore plus solide. À Malte, tes tempêtes vont devenir tes plus grands témoignages. À Malte, dans l'inconnu et la frayeur, tu vas être instruit dans la foi. À Malte, les bateaux qui ont coulé vont devenir des bénédictions et des conquêtes. Vous devriez commencer à dire amen, c'est vraiment bon ce bout-là. À Malte, le froid et la pluie deviennent force et paix, formation et progrès. À Malte, il faut que tu comprennes que le serpent annonce le surnaturel. Alors, vous devriez, moi, j'ai travaillé très fort là-dessus. Je m'attendais à un amen fort que ça. Dites à la personne près de vous, bienvenue à Malte. Dites à la personne près de vous. À Malte, je dois reconnaître, accepter, apprendre que la révélation est plus importante que les raisons. Laisse aller les raisons. Je marche dans la révélation de son engagement, de sa fidélité, de sa main qui me dirige. Ils vont m'être faits selon qui. Il faut que, parce que Dieu a ses plans. Il va accomplir. Et à Malte, le miraculeux veut se préparer. Le serpent précède. Je dois reconnaître, accepter, apprendre que le serpent précède le surnaturel. Chapitre 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, c'est ça qui manquait, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est pas une petite affaire, papa, elle est prise après sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ça a duré quelques minutes, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Mais Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. C'est la portion de la tempête qu'on appellerait en québécois, ça ne marchera pas en France et ailleurs, mais ça va marcher ici, je pense. C'est la portion, c'est le bout du bout. J'ai rien fait, j'étais un homme de Dieu, j'ai prêché l'Évangile, ils m'ont accusé injustement, battu de verge, j'étais en prison. Ils m'ont sorti de prison, puis les juges ont dit, cet homme-là n'a rien fait de mal pour se retrouver là. Il ne mérite pas rien, rien fait de mal. Ils me mettent sur le bateau quand même. Je leur dis, sur le bateau, faites-le pas, ça va être terrible, ça va vous amener à... Non, on ne m'écoute pas, moi. Et là, on se retrouve. Et là, pendant des semaines, être ballotté sur la mer, pendant des semaines, à ne pas être capable de manger, pendant des semaines, à vomir notre vie, pendant des semaines, le bateau, tout jeté, le bateau éclate en morceaux, la chaloupe, on finit sur Malte, il pleut, il mouille en québécois, on gèle, on n'est pas capable, personne de se comprendre, puis là, il y a un feu. L'apôtre Paul pourrait juste être dans un coin à dire, Dieu, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici, sur l'île de Malte? Mais je vais contribuer, je vais continuer. Je vais continuer à l'église, je vais continuer à prier, je vais continuer à servir, je vais continuer à m'impliquer, je vais continuer à donner ma dîme. Dites amen, c'est super bon. Je vais continuer. OK, d'abord, je vais aller aider dans le feu. Je suis un prédicateur pour les nations. Je suis rendu à fin. Je vais aller aider dans le feu. Je suis tellement dessous de moi, tout ça. Je vais aller aider dans le feu. OK, on va mettre des... All right, on va se chauffer les mains. Je vais aller aider dans le feu! Quoi? Une vipère s'attacha à sa main. Une vipère s'attacha à sa main. Il ne comprend pas ce qu'ils disent, mais à leur face, ils voient que oh, c'est un meurtrier. La justice veut l'avoir. Une vipère, c'est le bout du bout. Et l'apôtre Paul va faire le message le plus puissant de l'Évangile sans dire un seul mot. Il n'a pas dit un mot, mais la vipère s'attacha à sa main. La Bible dit qu'il la secoua, et il n'a pas dit un mot, et la jeta dans le feu. Ne laisse pas le poison de la vipère faire son œuvre en toi. Laisse pas le poison, hey! Laisse pas le poison de l'amertume. Laisse pas le poison de tout abandonner. Laisse pas le poison de la jalousie. Laisse pas le poison de l'insécurité. Laisse pas le poison de la peine. Laisse pas le poison de la peur faire son œuvre en toi. Il y a des moments où au-delà de tous les discours, just shake it off. Prends la vipère puis lance-la dans le feu, dans le nom de Jésus. Crie avec moi, jette-la dans le feu. Lorsque je traverse la tempête, si je veux me rendre au miraculeux, il faut reconnaître, accepter et apprendre que la révélation est plus importante que les raisons. Malte peut devenir le lieu du miraculeux. Le serpent précède le surnaturel. Et à qui j'appartiens compte plus que les attaques. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que Paul a dit? En effet, le Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Il faut que, et je sais que j'ai confiance en Dieu qui sera fait comme il m'a été dit. Le Dieu à qui j'appartiens. Mais eux, non, oh, c'est un meurtrier. C'est sûr que c'est un meurtrier. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort, subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, c'est un dieu. Des affaires qui ne changent pas, des barbares sur une île de Malte de 2000 ans, aux médias sociaux en 2019. Hosanna, fils de David, crucifiez-le. Tu veux suivre Jésus, tu vas avoir besoin dans tes tempêtes parfois de marcher en refusant et de te laisser abattre par les jugements des gens autour de toi. Les jugements. Qu'est-ce que se disaient les barbares? encore des barbares aujourd'hui dans l'Église. Tout ce qu'ils disaient, les barbares, il a dû se faire quelque chose contre Dieu pour être comme ça. Si tes enfants sont de même, c'est à cause de ça. Si c'est ta vie. Si tu traverses ça, si se passe ça dans ton mariage. Même parfois, les personnes qui sont proches de toi, qui te connaissent, Non. Et tout à coup, les mêmes personnes fickle, les mêmes personnes qui disent oh, c'est un meurtrier. Non, c'est un Dieu. C'est un meurtrier. Non, c'est un Dieu. Hosanna, crucifiez-le. As-tu été attaqué dans tes moments de tempête par des gens que tu pensais qu'ils seraient là pour te soutenir et t'encourager, puis qui sont mis à mettre des choses en doute, sont mis à prononcer des paroles de mort sur toi, des paroles de découragement, des paroles qui te déchirent et qui t'ébantrent? Il faut que tu t'arrêtes un instant dans la tempête. À qui j'appartiens est plus important que les attaques contre moi. Le seul jugement qui compte, c'est le jugement de Dieu sur moi, qui connaît mon cœur et qui va me conduire. Quelqu'un devrait dire amen. Pour reconnaître et accepter, apprendre. La révélation est plus importante que la raison. Mal peut devenir le lieu du miraculeux dans ta vie. Le serpent précède le surnaturel. Si tu le secoues, tu ne le laisses pas faire son œuvre en toi et tu le secoues dans le feu. À qui j'appartiens compte plus que les attaques. Et c'est tellement important que tu secoues le serpent dans le feu. C'est tellement important. La Bible nous dit que lorsque secoué le serpent dans le feu, qui a continué à servir. Et tout le monde, là, lui, faisait juste servir. Mais tout le monde, les barbares étaient. Oh! C'était comme une bombe, là. C'est comme, il va s'exploser, il va enfler, il va crever, il va étouffer, il va. Non, lui, il est en train de servir. C'est tellement important que je et que tu secoues dans le feu les serpents lors des attaques. Parce qu'il y a une génération qui a besoin de me voir continuer à servir Dieu fidèlement. Il y a une génération d'hommes et de femmes qui ont besoin de nous voir, nos enfants. Une génération, je parle à tous les chrétiens qui sont ici dans ce que tu traverses. Il y a une génération qui a besoin de voir, je le dis de cette façon aussi, à tous ceux qui écoutent par Internet et aux leaders, à cette génération où à chaque semaine, j'ai une nouvelle d'un leader, le leader qui n'a pas secoué le serpent et qui devient un sujet où tout le monde penche la tête. Seigneur, donne-moi comme vision et objectif de vie, quel que soit ce que je traverse, je secoue le serpent, je continue à servir. Et si quelqu'un a besoin d'un modèle, regarde-moi un instant, moi je vais continuer à servir Dieu. Il faut que, mais je sais que sa promesse dans ma vie va s'accomplir et que rien ne va m'empêcher. Quelqu'un devrait dire amen. Je sais que je vous ai fait parler beaucoup à la personne d'un côté, parlez à la personne de l'autre que vous ignorez depuis le début de la réunion et dites-lui, je me présente secoueur de serpent. Dites ça à quelqu'un près de vous. Ah, il faut reconnaître, accepter et apprendre que la révélation est plus importante que les raisons. Alors, je laisse aller les raisons maintenant. Va dans la révélation. Mal peut devenir le lieu du miraculeux. Il faut reconnaître, accepter et apprendre que le serpent précède le surnaturel. Et à qui j'appartiens compte plus que les attaques ou l'adulation des gens. C'est un meurtrier. Non, c'est un Dieu. Attaque, adulation, les mêmes personnes peuvent passer d'une affaire à l'autre, d'un tweet à l'autre. C'est entre moi et Dieu. C'est devant Dieu que je vis, c'est devant lui, c'est son approbation à lui que je recherche. Et savez-vous pourquoi c'est tellement important que tu secoues le serpent, c'est tellement important que tu ailles dans la révélation plutôt que les raisons, que tu saches que mal peut devenir le lieu du miraculeux, que le serpent précède le surnaturel à qui j'appartiens contre plus que les attaques. Non seulement parce qu'il y a quelqu'un qui te voit vivre, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir une génération de croyants qui vont secouer le serpent et continuer à servir, confiant dans leur Dieu. Je termine parce que ce qui me semblait la pire perte, ce qui me semblait comme mes pires pertes, me prépare en fait pour Publius. Publius, c'est un nom magnifique, c'est des mamans qui sont enceintes ici. Je vous propose ce nom-là pour votre fils, c'est un nom magnifique, Publius. Si vous voulez qu'il se fasse battre à l'école, appelez-le Publius. Mais le texte nous dit, il y avait dans les environs, verset 7, tout après là, ils ont changé d'idée. Changèrent d'avis. C'est un meurtrier. Non, changèrent d'idée. C'est un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre de la dysenterie, la fièvre de Malte, la fièvre mortelle de Malte. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il faut que on s'échoue à Malte. Parce que de l'autre côté de cette tempête, il y a le miraculeux. Et de l'autre côté de la tempête, avec Jésus, les disciples, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mais maintenant, Christ est en eux. Alors qu'il traverse la tempête, l'apôtre Paul se rend vers lui, lui imposa les mains, et il fut guéri. Et là-dessus, ça ne finit pas là. Et là-dessus, vers les autres malades de l'île. Il faut qu'on s'échoue sur l'île de Malte, parce que Dieu a une mission pour nous. On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Nous devons tous passer par Malte. Paul a une décision à prendre. Est-ce que je vais suivre Jésus de façon misérable? Est-ce que je vais être misérable alors que je suis Jésus? Est-ce que je vais suivre Jésus misérable à Malte? Ou est-ce que je vais suivre Jésus dans une mission à Malte? Paul n'avait pas décidé d'aller à Malte, mais il doit décider ce qu'il va faire pendant qu'il est là. Je n'ai pas décidé la tempête dans laquelle je suis. Je n'ai pas décidé les tempêtes que je traverse. Mais je peux décider ce que je vais faire pendant que je suis là. Je peux comprendre que des oppositions et des tempêtes, de l'adversité va naître, des opportunités surnaturelles. Et c'est juste une petite parenthèse pendant que je lisais le texte. La Bible nous dit que sur l'île de Malte, ils ont été reçus et logés de la manière la plus amicale. Et même au début, ça dit qu'ils ont reçu une bonté peu commune. Juste à mentionner que, est-ce que dans tes tempêtes, tu reconnais les gens qui veulent t'aider? La bonté des gens vers toi, la générosité des gens vers toi, l'accueil des gens vers toi. Souvent dans les tempêtes, dans notre souffrance, on ne veut même plus voir et reconnaître les gens. L'apôtre Paul dit, je suis sur l'île de Malte, mais les gens qui ont été bons vers moi, qui m'ont logiquement accueilli. Puis l'autre pensée était juste une parenthèse, mais l'autre pensée était ceci. Est-ce que tu es devenu quelqu'un, comme chrétien, qui fait preuve de bonté, pas de jugement, de bonté, de bienveillance, qui loge, qui écoute, qui prie, qui soutient sans juger celui qui traverse ou celle qui traverse sa tempête? Parce que l'Église de Jésus-Christ, là, ceux qui suivent Jésus, c'est des gens qui ont reçu bonté de Dieu et de son peuple dans leur tempête et qui ont compris que maintenant mon appel n'est pas, lorsque quelqu'un traverse une tempête, de tout lui trouver les raisons et les pourquoi et comment ça se fait que, puis qu'est-ce que je pense que, mais d'être là comme une voix, une bonté hors de l'ordinaire, une compassion, un amour les uns pour les autres. Quelqu'un devrait dire oui. Il faut que, j'invite les musiciens à s'approcher, il faut que je reconnaisse et que j'accepte que les pires pertes, on a perdu le bateau, on a perdu, les pires pertes me préparent pour Publius. Je pourrais presque le dire de cette façon, c'est comme si, il faut que, et je pense qu'à ce moment-ci, c'est le moment que je pourrais appeler où Paul a souri. Je pense que Paul a souri. À ce moment-ci, là, l'apôtre Paul, le naufrage, toute l'affaire, puis, Le serpent, shake le serpent, continue à servir, c'est un dieu. Ouais. Et là, tout à coup, à travers, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, travail traducteur, venez-vous avec nous. Il y a peut-être un qui est capable, qui a fait de se faire comprendre. Je le vois assis dans la maison avec ces gens-là. Et un monsieur qui passe, puis il est mourant. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est le père de l'homme le plus important du village, qui a le pouvoir sur toute l'île entière, c'est son père. Et l'apôtre Paul commence à sourire. C'est pour ça. Il fallait que. Dieu dit, si tu as confiance en moi, il fallait que tu te rendes à Malte. Tu avais besoin d'aller à Malte pour l'œuvre que je vais faire en toi, mais tu avais besoin d'aller à Malte parce que Malte avait besoin de toi. Et là, c'est tellement beau. La main encore cicatrisée, la main encore qui, toi, jour avant, était mordue par le serpent, devient la main qui amène la guérison, de la tempête jusque dans le miraculeux. Est-ce que vous comprenez que quel que soit ce qu'on traverse ensemble, quel que soit ce que tu traverses dans ta tempête, si tu le laisses, si tu sors avec moi ce matin, tu traverses la tempête avec moi ce matin, tu dis, Seigneur, je relâche les raisons, ça ne sera pas les raisons, je veux me tenir dans la révélation, il faut que, et j'ai confiance que celui qui m'a promis va me garder. Moi, je m'en vais à Rome. Je ne peux pas mourir ici à Malte parce que je m'en vais à Rome. J'ai une promesse de Dieu dans ma vie. Et Malte va devenir le lieu du miraculeux pour moi. Et même s'il y a un serpent, je vais le secouer. Et le serpent va préparer le surnaturel dans ma vie. Et même s'il y a du monde qui m'attaque et qui m'accuse et qui me juge, à qui j'appartiens est plus important que les attaques ou l'adulation. Et Seigneur mon Dieu, même ce que je pensais qu'elle avait été perdue, les pires pertes dans ma vie, mon Dieu, je te les offre et tu vas faire de moi quelqu'un. La main qui est cicatrisée encore avec la souffrance va goûter au surnaturel et va amener la guérison à d'autres dans le nom de Jésus. Et que ceux qui veulent le suivre disent un grand et dernier amen ce matin.
On peut se lever ensemble en sa présence. Je vais inviter toute l'équipe à s'approcher. Sandra, toute l'équipe, nous allons chanter. J'ai quelque chose de spécial sur mon cœur. Ça va prendre quelques minutes. C'est important. Penchez la tête avec moi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ce matin que ce message peut vous parle. Je cherchais les raisons. Mais ce matin, je veux relâcher les raisons. Puis je veux venir être rempli de la révélation de Dieu. Je veux m'approcher de lui et je veux dire, Seigneur, je veux vivre au diapason. La seule chose, je relâche les raisons, mais je veux vivre avec le Seigneur m'a promis. Celui, j'ai confiance que celui qui m'a promis, celui qui a, il m'en sera fait comme il me l'a promis. Je crois qu'il y a plusieurs personnes ce matin qui étaient à Malte. Ce qui t'arrive, tu ne peux même pas l'imaginer. Puis je pense que c'est fini, puis cette tempête-là est trop longue, c'est trop. Puis je ne peux pas revenir de ça. Tu étais presque au bord d'abandonner. Comme eux, le texte dit, ils n'avaient plus même d'espoir. Mais lorsque moi, mon espoir est en train de mourir, l'espoir, c'est Jésus vient me chercher là, dans la tempête. Et ce matin, il y a un serpent qui a voulu s'attacher à ma main. Un serpent de tristesse, un serpent de colère, un serpent de... C'est rendu impossible, un serpent d'incrédulité, un serpent d'amertume, un serpent de non, un serpent d'endurcissement. Ils ne comprirent pas parce que leur cœur est endurci. Mais Seigneur, ce matin, je veux secouer le serpent, son poison ne fera pas son œuvre en moi. Et Seigneur, mon Dieu, j'ai souffert des attaques. J'ai souffert de ceux qui ont mis mon cœur en question, de ceux qui ont dit des choses sur moi, de ceux qui m'ont blâmé, de ceux qui me blâment pour ce qui arrive. Ceux qui m'attaquent, mais ce matin, à qui j'appartiens est plus important que les attaques. Je ne cherche pas les adulations, l'adulation des hommes. Je cherche à plaire à mon Dieu. C'est devant toi que je veux vivre ma vie. Et ce que je pensais qui était ma pire perte, oh mon Dieu, tu me dis ce matin que ça me prépare pour mon Publius, pour mon, tu veux prendre. Cette tempête-là, je ne l'ai pas choisie, mais je peux décider ce que je veux faire dedans. Et ce matin, je veux t'obéir. Je veux m'offrir à toi. Je veux t'honorer. Je veux te servir. Je veux voir le miraculeux. Je veux croire. Je veux pardonner. Je veux aimer. Je veux voir la résurrection. Ma main est enflée, cicatrisée. Mais cette main-là, Seigneur, dans la tienne, peut devenir celle qui va amener la guérison à mon couple, à mon mariage, à mes enfants, à ma vie et à d'autres, à des gens que je ne connais même pas encore vers lesquels tu vas me conduire. Alors ce matin, je tends mes mains vers toi et je dis, Seigneur, en ta présence, je veux aller. Tu es, tu seras toujours là. Et si vous êtes avec moi ce matin à suivre Jésus, de la multiplication à la tempête, jusque dans le miraculeux, que vous pouvez tendre vos mains vers Dieu et on va le chanter et l'adorer, le prier ensemble alors que nous nous offrons à lui.